C'était un dimanche de printemps, belle journée. C'était en réalité le dernier dimanche de Jésus avant sa mort. Quelques jours seulement, par conséquent, avant ces heures difficiles de la crucifixion. Simon, qui habitait Béthanie, avait organisé ce jour-là un grand banquet. Simon avait une dette envers Jésus. Il était pharisien et il se trouve que Simon avait été atteint de la lèpre. Et Jésus l'avait guéri de sa lèpre, comme Jésus avait guéri beaucoup d'autres lépreux pendant son ministère. Mais Simon sentait qu'il avait une dette envers Jésus, il voulait faire quelque chose pour Jésus, pour le remercier d'avoir fait un si grand miracle pour lui. Alors Simon va organiser à Béthanie un grand banquet pour Jésus, un banquet pour honorer Jésus qu'il avait guéri de sa maladie. Simon veut faire quelque chose d'impressionnant pour Jésus. Alors évidemment, il va demander à la plus grande cuisinière de Béthanie de s'occuper du repas, Marthe. C'est elle qui va gérer tout ça. Et puis, pour faire vraiment fort, Simon va faire venir Lazare. Et au repas, il y aura Jésus à la place d'honneur, à droite, Simon guéri de la lèpre. À gauche, Lazare, ressuscité des morts. Lazare que tout le monde veut voir. Depuis qu'il est ressuscité des morts, tout le monde veut le voir, le toucher, lui parler, lui demander « qu'est-ce que tu as vu pendant que tu étais mort ?» Ils avaient encore à cette époque l'idée que les morts étaient quelque part pendant leur mort. Ils n'avaient pas encore intégré véritablement l'idée d'une mort-sommeil. Ils l'avaient perdue, s'étant éloignés des Écritures. Tout le monde voulait voir Lazare. Alors organiser un souper avec Lazare, Jésus, ça c'était un événement remarquable. Simon avait eu un problème. Il était pharisien et par conséquent il était dans ce groupe des gens qui sont les purs, ceux qui ont un lien particulier avec Dieu parce que selon eux, ils observent toute la loi, pensait-il. Donc, puisqu'ils sont si proches de Dieu, ils ont la faveur particulière de Dieu et rien de mal ne peut leur arriver. Seulement voilà, Simon a contracté la lèpre. Et dès que Simon a été lépreux, tous ses collègues pharisiens ont immédiatement eu des soupçons sur lui. Ah, mais s'il est frappé de la lèpre, c'est qu'il n'est pas l'enfant de Dieu qu'il prétend être. Dieu l'a frappé pour son péché. Et dans l'esprit de Simon, ses collègues n'avaient peut-être pas tout à fait tort. Parce que Simon se souvenait d'une ou deux pages de sa vie qui n'étaient pas claires, dont lui seul, ou à peu près, avait connaissance. Et il est clair que dans l'esprit de Simon, il y a eu cette idée, est-ce que Dieu n'est pas en train de me punir pour ce que j'ai fait il y a des années maintenant ? Seulement, lorsque Simon a été guéri par Jésus, alors l'opprobre a été enlevé en un instant. La mauvaise réputation qui pesait maintenant sur lui a été entièrement lavée. Il a été pécheur, mais il a été guéri par Jésus. Par conséquent, Dieu le recevait de nouveau comme un de ses proches. Et il était très fier d'être de nouveau un proche de Dieu. En fait, Simon était encore plus fier d'être pharisien après sa guérison qu'avant. Toute l'attention avait été portée sur lui et sur les événements extraordinaires qu'il avait vécus dans cette guérison offerte par Jésus. Alors il fallait célébrer ça. Et c'est ainsi qu'il avait organisé ce grand souper. Simon à la droite de Jésus, Lazare à sa gauche. Simon avait organisé la fête à la romaine, c'est-à-dire que dans cette salle, les tables étaient en forme de U et il y avait des banquettes tout autour de la table sur lesquelles on se couchait à la romaine, appuyé sur le coude gauche et on mangeait avec la main droite. C'est la raison pour laquelle, en réalité, ils pouvaient communiquer les uns avec les autres au travers de la salle, mais pas toujours très bien avec ceux qui étaient proches d'eux. Ainsi, dans cette disposition, tout le monde pouvait se voir dans une certaine mesure. Et ainsi, Jésus était au centre de cette salle, au centre de ce U avec les banquettes tout autour. Les personnes qui servaient, Marthe et les autres, venaient dans le centre de ce U que formaient les tables et pouvaient avoir accès à chaque invité. On s'occupait de ce qui se passait au milieu de la salle. C'est la raison pour laquelle Marie, qui n'avait pas été invitée, a pu rentrer dans la salle, passer derrière les banquettes où ses invités étaient couchés, passer le long du mur, sans que vraiment on s'en rende compte parce qu'on était occupé à ce qui se passait au milieu de la pièce. C'est là que les plats étaient apportés. Et puis, vous vous en souvenez, dans ce passage qui est rapporté dans les quatre évangiles, il nous est dit que au milieu de ce repas, un scandale va éclater. Un scandale silencieux. Parce que Marie va venir avec une bouteille de parfum qui coûte une fortune, qu'elle a probablement pu acheter grâce à son ancienne vie d'ailleurs. Elle va rompre le col de cette bouteille et oindre les pieds de Jésus. Les pieds sont donc vers le mur. Elle espérait ainsi pouvoir oindre les pieds de Jésus, repartir, sans que personne ne se doute de rien. Elle avait oublié un détail. C'est sûr, elle n'avait pas fait de bruit, mais ce parfum allait crier dans toute la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Rapidement, le parfum s'est répandu et tous les regards se sont portés sur Marie qui était aux pieds de Jésus. Ce n'est pas exactement ce qu'elle voulait. À ce moment-là, il y a eu un grand malaise dans la salle. Simon, souvenez-vous, était juste à côté. Marie, en fait, était dans son dos. Il s'est retourné et il a vu Marie. Il a été pétrifié. Les autres, les pharisiens qui étaient là, étaient pris d'un malaise général. Et les pensées étaient tellement fortes qu'on pouvait les lire. Simon se disait, mais si ce Jésus est vraiment un prophète, il devrait savoir qui est cette femme, enfin, et pas se laisser toucher par elle, voyons. Il l'a pensé tellement fort que Jésus l'a entendu. Et Judas n'a pas pu tenir sa bouche fermée. Il a trouvé une remarque qui, pensait-il, allait le mettre en évidence. On aurait pu garder cet argent pour le donner aux pauvres. Et oui, les pauvres, c'était lui qui gardait la bourse. Il a essayé de rompre le malaise en donnant une bonne idée qui condamnait Marie et qui l'aurait mis en valeur. C'est vrai qu'il faut être généreux envers les pauvres. Et Jésus va dire, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais vous ne mourrez pas toujours avec vous. Alors c'est Jésus, en réalité, qui est le seul dans cette pièce à être pleinement à l'aise. Et ça se voit. Et Marie le sent. Pendant qu'elle est en train d'essuyer les pieds de Jésus et de prendre le chemin de la porte, Jésus lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Et là, le malaise est encore plus grand parce que les pharisiens qui sont là, en bout de table, se disent « Mais qui est-il pour pouvoir dire une chose pareille ?» Alors Jésus se tourne vers Simon et lui dit « Simon, j'ai une petite histoire pour toi. Parle, maître. » Et Jésus raconte cette petite histoire. Un homme avait deux créanciers. L'un devait 50 000 $. Et l'autre en devait 500. Et cet homme a remis la dette à ces deux personnages. Petite question pour toi, Simon. D'après toi, lequel de ces deux va aimer plus cet homme qui a remis leur dette? Bien évidemment, celui qui avait la dette la plus grande. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, c'est juste. Et c'est la raison pour laquelle cette femme peut repartir avec ses péchés pardonnés. Elle a beaucoup aimé. Je suis entré chez toi, Simon, Tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Elle a oint mes pieds de parfum et de larmes. Tu ne m'as pas donné de baiser quand je suis entré. Elle a baisé mes pieds en remerciement de ce que j'ai fait pour elle. Tu ne m'as pas oint d'huile quand je suis rentré dans ta maison. Elle m'a oint de parfum. Et tout d'un coup, Simon a dû penser qu'il avait fait un oubli grave. Parce que ne pas apporter un bassin d'eau fraîche et inviter un serviteur à laver les pieds des invités, c'est une infraction grave aux règles de la bienséance et de la politesse. Il n'y a même pas pensé. Simon, tout d'un coup, se trouve dans une situation difficile. Parce qu'il avait fait, en fait, ce banquet pour honorer Jésus, bien sûr, mais ce faisant, celui qui était honoré dans cette affaire, c'était quand même bien lui. Il s'était mis à droite de Jésus. Et quand on pense dans la Bible ce que signifie être à la droite de quelqu'un, ça avait du poids. Lui faisait partie de cette équipe de ceux qui avaient été guéris par ce grand prophète, parce qu'il ne voyait pas encore en Jésus le sauveur du monde. Il était parmi ceux qui avaient été les privilégiés de Dieu. Et il espérait de cette manière-là être considéré par ses pairs comme étant maintenant quelqu'un de particulièrement important. Il voulait finalement, en d'autres termes, utiliser Jésus et ce que Jésus avait fait pour lui, pour sa propre gloire. Et voilà que Simon se trouve dans une situation difficile. Et Jésus rajoute, « Vous savez, ce que cette femme a fait, elle l'a fait pour ma sépulture. » Quelques jours plus tard, Jésus allait être mis à mort. Et il n'y aurait personne pour s'occuper de sa sépulture parce que tous les disciples allaient s'envoler comme des oiseaux. Et puis, il va rajouter une phrase intéressante, une prophétie. Il va dire, on racontera dans le monde entier ce que cette femme a fait lorsqu'on annoncera l'évangile. Et cette prophétie s'est réalisée, elle se réalise encore aujourd'hui, ce matin même. Parce qu'effectivement, on a oublié le nom des empereurs d'autrefois, on a oublié le nom de ces grands rois, comme on les appelle d'autrefois. Mais cette femme, Marie, dans ce qu'elle a fait pour Jésus, on le raconte encore aujourd'hui, c'est inscrit dans sa parole. Cet événement, dans le banquet que Simon avait fait, est inscrit dans les quatre évangiles. On raconte encore ce que cette femme a fait pour Jésus. On raconte encore comment elle a exprimé son adoration, sa reconnaissance. Pensez, dans cette affaire, tout d'un coup, au milieu de ce banquet, ce que Jésus est en train de dire finalement à Simon, c'est ceci. Simon, le plus grand pécheur dans cette affaire, n'est pas celui qu'on pense. Et Simon est mal à l'aise parce qu'en réalité, c'est lui, Simon, qui a conduit Marie dans le péché la première fois. Et Simon est toujours en train de se dire, c'est probablement pour ça que j'ai contracté cette maladie. Mais j'en ai été guéri. Pas elle. Le plus grand pécheur n'est pas celui qu'on pense. Le repas de Simon, c'était le repas de Jésus. Et tout d'un coup, les rôles se sont renversés. Jésus était devenu finalement le maître du repas. Et Simon était celui que Jésus avait invité. Mais il avait encore des choses à lui dire, à lui faire comprendre. Le repas auquel nous allons participer ce matin, dans quel état d'esprit allons-nous y venir ? Dans l'état d'esprit de Simon, qui finalement voulait utiliser Jésus pour conforter sa manière d'être et de vivre, ou voulons-nous que ce soit véritablement le repas du Seigneur auquel nous sommes invités pour nous remettre entre ses mains? Mais il y a dans les évangiles un deuxième repas. Il est inscrit dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 19. Vous vous souvenez de cet homme ? Oh, comme trois pommes, disait la chanson, qui savait que Jésus allait venir à Jéricho. et qui était monté dans un arbre, Zachée. Les enfants du quartier ont bien rigolé en voyant Zachée dans l'arbre. C'est les enfants qui montent dans les arbres, c'est pas les adultes. Mais il avait la taille des enfants. Et ils se sont moqués de lui abondamment parce qu'il est monté dans l'arbre bien avant que Jésus passe pour être sûr de rester caché. Et vous imaginez les enfants qui, eux, sont dans les arbres, bien sûr, se moquer de ce personnage vénérable collecteur d'impôts dans la ville de Jéricho. Et vous imaginez Zachée qui leur dit « Taisez-vous, Jésus arrive !» Et effectivement, Jésus prend ce chemin, il y a avec lui une foule de gens. Beaucoup de gens se pressent autour de Jésus pour être avec Jésus. Il y a là des pharisiens, il y a là toutes sortes de gens qu'ils connaissent ou qui ne le connaissent pas encore. Et puis Jésus va passer sous l'arbre de Zachée. Les enfants se sont dispersés et il espère voir Jésus. Zachée, dans son arbre, se cramponne à sa branche, sent son cœur qui bat parce que Jésus approche et Jésus va passer. Il retient sa respiration et dans un sens, il espère que Jésus va passer vite parce que cet instant est difficile pour lui. Mais Jésus vient sous l'arbre et il s'arrête et il va s'adresser à lui par son nom. « Zachée, descends, dépêche-toi, je dois aller chez toi aujourd'hui. » Est-ce que vous pouvez imaginer la tête de Zachée dans son arbre? Je ne sais pas comment il a fait pour parler. Il est descendu. Mais les gens derrière Jésus sont silencieux maintenant. Parce que Zachée, tout le monde le connaît à Jéricho. Tout le monde a engraissé Zachée. Tout le monde a payé la maison de Zachée par les impôts abusifs qu'il a demandés. Tout le monde connaît Zachée, un collaborateur avec l'ennemi. On le hait, Zachée. Et voilà tout d'un coup que ce Jésus auquel on veut s'attacher, avec qui on veut être bien, voilà qu'il demande à Zachée de venir chez lui. Non, il aurait pu aller chez les notables de la ville, chez le chef de la synagogue, chez les pharisiens. Là, on aurait compris que Jésus puisse leur rendre visite. Mais Zachée, non. Et tous se disent... Et encore une fois, il le pense tellement fort que Jésus l'entend. C'est chez moi qu'il aurait dû venir, pas chez ce type-là. Mais Zachée s'est mis sur le chemin de Jésus. Et Jésus l'a recueilli en chemin. Il était sur son arbre. Jésus va aller dans la maison de Zachée. Et vous pouvez voir ce drôle de cortège maintenant. Les pharisiens restent derrière. Et Jésus a le bras autour de Zachée. Il est petit. Plus personne ne rigole de lui. La foule va se disperser et Zachée va introduire Jésus dans sa maison. C'est sûr, Zachée va demander à ses serviteurs de laver les pieds de Jésus. Et c'est sûr, Zachée va inviter Jésus à venir à table. C'est la moindre des politesses dans le contexte où on est. Parce que Zachée a besoin d'un tête-à-tête avec Jésus. Et Jésus a besoin d'un tête-à-tête avec Zachée. Tous les deux, à table, ils vont parler. Peut-être que Jésus va lui demander, « Mais Zachée, pourquoi est-ce que tu es monté dans ton arbre? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me voir ?» Il y aura toute cette conversation que l'on peut imaginer, dont on connaît seulement le résultat. Et le résultat est clair. Zachée passe par une expérience que nous appelons aujourd'hui la conversion. Parce que Zachée, qui passe par un réveil spirituel, fait suivre ce réveil d'une réforme. Incroyable, il va rendre l'argent qu'il a pris et il le dit. Jésus quitte cette maison, il a un ami et cet ami est pardonné. C'est un autre repas. C'est un repas bien différent du premier. Alors je me pose la question aujourd'hui, et je me demande, en nous approchant de ce repas auquel le Seigneur nous invite, quel va-t-il être ce repas pour nous? Le repas de Simon ou le repas de Zachée? Le repas de Simon qui finalement veut utiliser Jésus pour se mettre en évidence et pour donner une absolution sur tout ce que fait maintenant Simon. Ou bien le tête-à-tête avec Zachée, où Jésus parle à son cœur et où Zachée lui répond parce qu'il n'y a personne d'autre pour entendre. Et où Zachée lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. Notre repas de ce matin dans cette sainte scène, que sera-t-il pour vous? Un repas de Simon? Un repas de Zachée? Est-ce qu'il sera rencontre avec Jésus en tête à tête? Est-ce qu'il sera utilisation du Christ pour nos besoins, nos intentions, nos projets? Est-ce que ce repas ce matin sera aussi un outil par lequel le Seigneur peut nous amener à renforcer, affermir notre conversion, notre marche avec lui? Ce matin, je vous invite à vous présenter au repas du Seigneur, dans l'esprit de Zachée. Mettons-nous sur son chemin pour qu'il puisse nous recueillir et venir demeurer chez chacun d'entre nous. Amen.